Soirée reclus à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et sur Radio Plaisance sur 95.9 MHz en Périgord noir. Donc, le mois dernier, nous avions parlé du végétarisme et du végétalisme avec Pierre et Nathalie de Burdi Vega. Donc, on les remercie encore pour leur participation à l'émission du mois dernier. Et nous, on est un peu restés sur notre fin le mois dernier. Donc, nous voulions pousser la réflexion, la politisation et tout ça un peu plus loin et aller voir les gens un peu plus, on va dire, radicaux ou extrémistes. Ça dépend de ce qu'on peut dire. Et non, mais je plaisante là. Et donc, nous avons avec nous aujourd'hui Kostia et Virginie de Bordeaux, de l'asso ACTA. Alors, Virginie, c'est quoi ACTA? Ça veut dire quoi ACTA déjà?
Alors ACTA, ça veut dire agir contre la torture des animaux, mais surtout on trouvait que ACTA, on voulait quelque chose qui donne un peu la notion d'action, quelque chose de vivant, quoi, qui illustre notre motivation. Et donc on a créé ce collectif en fin 2005 pour informer en fait sur l'exploitation animale. Donc que ce soit l'élevage pour la nourriture ou les animaleries, l'expérimentation animale, les jeux comme la corrida ou les cirques, et aussi donc sur toute l'industrie des vêtements donc qui produit du cuir, de la fourrure, de la soie ou de la laine. Donc d'informer sur les réalités qui se cachent derrière ces industries. Donc par exemple le fait que chaque jour en France, c'est 3 millions d'animaux qui sont tués dans les abattoirs, 3 millions d'animaux qui sont dans les abattoirs, c'est-à-dire on ne compte pas ceux qui meurent dans les élevages, comme les poussins qui sont broyés vivants, ni ceux qui meurent dans les transports. Et on ne prend pas en compte non plus les millions de poissons qui sont pêchés, en fait. Eux, ils sont comptés en tonnes, ils n'existent même pas en tant qu'individus. Oui. Donc voilà, on fait des stands d'information, parfois avec des petites mises en scène, pour informer, en fait, donc sur l'exploitation animale, donc le spécisme, pour... déjà que cette question soit un peu débattue et présenter toutes les alternatives à cette exploitation. Donc comme le végétarisme ou le végétalisme par exemple. Voilà brièvement ACTA.
D'accord, après on va développer un peu plus, on va écouter une petite musique Animal Liberation. C'est de qui déjà comme groupe, cher Jeff?
C'est Los Fastidios.
Merci, on se retrouve juste après avec Virginie et Kostia.
Animal! Animal! Meno parole, più azioni!
Gli animali non esiste alcun diritto.
Fight for animals.
Fight. Fight. Io non posso più restare indifferente alla violenza sul mondo animale in nome della scienza. Ma quale scienza? Sono i vostri esperimenti che diritti agli animali. Apriremo quelle gabbie e vini ecco criminali. Animal liberation.
Animal liberation
war. Milioni di animali catturati ogni giorno per il business della moda e l'industria del savoia.
Fight!
Tuo diritto all'eleganza non può certo prevalere sul diritto di sopravvivenza di un essere vivente. Questi vostri esperimenti, più diritti agli animali. Apriremo anche le gabbie, fini e con criminali.
Animal liberation.
Animal liberation war.
Chissà già che
vorrei sapere dove è scritto che per gli animali non esiste alcun diritto. Forza! Forza! Posso in quegli occhi tristi chiusi dentro quelle gabbie. Dopo questa crudeltà chiederemo a quelle sbarre. Fight for the animal rights! Basta i vostri esperimenti, più diritti agli animali. Apriremo quelle gabbie e finire con criminali. Animal liberation!
Animal liberation!
Animal liberation! Basta i vostri esperimenti, più diritti agli animali. Apriremo quelle gabbie e finire con criminali. Animal liberation!
Animal liberation!
Animal liberation! A tale proposito vi ricordo che il 20 novembre a San Polo d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, ci sarà una grossa manifestazione per chiudere quel fottutissimo centro che si chiama Morini, Los Fastidios.
Forêt reclus à l'Elysée sur Radio 103, toujours en compagnie de Virginie, Costia, Sébastien et Jeff. Dis d'ailleurs, tu as parlé de spécisme, Virginie, à l'instant, mais c'est quoi l'antispécisme, le spécisme, c'est quoi l'historique? On va tout savoir avec Jeff.
Enfin, tout, je sais pas, mais enfin, en tout cas, il y a certaines définitions, donc sur Wikipédia notamment. Le spécisme qui vient, ou espécisme, est défini comme une forme de discrimination concernant l'espèce, mise en parallèle avec toutes les formes de domination d'un groupe sur un autre, comme le racisme, discrimination concernant la race, ou le sexisme, discrimination concernant le sexe. Selon le point de vue antispéciste, le spécisme est ainsi une idéologie condamnable et un mouvement de libération animale est nécessaire pour ajuster les pratiques humaines avec les principes éthiques. La revue Les Cahiers Antispécistes, qui est originaire de Lyon d'ailleurs, ce mouvement, en France du moins, définit ainsi son combat. En pratique, le spécisme est l'idéologie qui justifie et impose l'exploitation et l'utilisation des animaux par les humains de manière qui ne serait pas acceptée si les victimes étaient humaines. Les animaux sont élevés et abattus pour nous fournir de la viande, ils sont pêchés pour notre consommation, ils sont utilisés comme modèle biologique pour nos intérêts scientifiques, ils sont chassés pour notre plaisir sportif. La lutte contre ces pratiques et contre l'idéologie qui les soutient est la tâche que se donne le mouvement de libération animale. Voilà en gros ce qu'on peut dire.
D'accord. Ensuite,
qu'est-ce que j'ai d'autre ? Concernant, justement, toujours sur les cahiers antispécistes, ils définissent aussi leur combat. C'est toujours la même chose. Voilà.
D'accord. Il y a les cahiers antispécistes qui sont visibles sur Internet. Alors, c'est... cahier attaché en minuscule comme d'habitude, un petit tiret antispéciste.org, donc cahier au pluriel et antispéciste aussi. Donc on en revient avec Virginie, donc c'est ça, c'est la définition un peu de l'antispécisme.
Oui, c'est tout à fait ça, c'est la discrimination selon l'espèce, et le terme lui-même est très, très peu connu en fait en France. On le voit apparaître de ci, de là. Ça arrivait une fois dans une série que j'entende parler d'une prof qui allait inciter ses élèves à casser la vitrine d'un fourreur parce qu'elle était contre le spécisme. Donc voilà, c'était vraiment anecdotique. Mais pour illustrer que c'est un terme qui est très peu employé parce que, en fait, le fait de dominer les animaux, ça se passe dans une indifférence totale et leur exploitation est perçue comme tellement naturelle que simplement nommer leur exploitation en disant c'est du spécisme, ça paraît mais surnaturel. Et pour preuve, à ma connaissance, dans la littérature, le seul moment où j'ai entendu parler de spécisme, et même plus particulièrement d'espécisme, si on respecte la langue française, c'est dans un roman de science-fiction, en fait, Les Annales du Disque Monde, pour ceux qui connaissent, de Terry Pratchett, qui parle d'une société où les gnomes sont les égaux des trolls, des humains, des vampires, etc. Et donc, il y a des quotas pour lutter contre l'espécisme. Donc voilà, à ma connaissance, une des rares fois où ce terme est employé. Parce que, justement, l'exploitation animale s'est perçue comme quelque chose de naturel, mais de la même manière que toutes les autres dominations, en fait, ont paru ou paraissent toujours naturelles, que... L'esclavage, bon, bah, c'était naturel, hein. Il fallait bien que les Noirs justifient leur existence sur Terre, donc dans les champs de coton. Les femmes, bah, c'est naturel qu'elles restent à la maison faire des gosses. Les homos, c'est pas du tout naturel parce qu'il faut se reproduire. Donc c'est toujours en fait le même argument de nature, sauf que la plupart des luttes, même si évidemment tout n'est pas parfait, c'est au moins accepté dans l'idée qu'on puisse combattre ces dominations. Alors que le spécisme, c'est très très peu accepté encore comme un combat valable et justifié.
Et pas ridicule, et c'est ridiculisé beaucoup aussi. Le truc aussi, si moi j'ai dit oui, je suis pas pour la chasse, ah ben oui, mais alors si on chasse pas les animaux, ils vont tous nous envahir. Donc voilà, après...
Je voulais savoir aussi, le spécisme est mal connu, surtout en France ou dans d'autres pays, dans d'autres pays est plus développé et plus reconnu, quoi, en fait.
Bah, dans les pays anglo-saxons notamment, donc l'Australie, l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis, le mouvement a quand même une ampleur beaucoup plus grande. Déjà, il y a beaucoup plus de végétariens et de végétaliens, et comme en majorité, les gens le sont parce qu'ils sont contre l'exploitation animale. Donc ça fait déjà un vivier de personnes sensibles à cette question-là. Et le fait que le spécisme, c'est un terme qui était popularisé par un philosophe australien, Peter Singer, donc ça a pris racine aussi dans ces pays-là, donc c'est plus connu là-bas. Mais c'est vrai que le mouvement a une ampleur aussi beaucoup plus grande là-bas. C'est un combat qui prend place aux côtés des autres luttes, avec plus ou moins de heurts, mais bon, comme pour tous les combats. Et en plus, dans les mouvements plus larges de protection animale, style la SPA, pour prendre un comparatif, ça paraît normal pour les associations qui sont plus chien-chien, chat-chat, ça leur paraît normal de prendre en compte le végétarisme, même si eux le prônent pas ou leurs membres le sont pas, ça leur paraît normal de remettre en question l'élevage et de manière plus générale le statut des animaux. Or qu'en France, mais il y a eu des progrès d'ailleurs ces derniers temps, ça émerge à peine. Mais par contre, c'est vrai qu'à la SPA, depuis un peu plus d'un an maintenant, la nouvelle présidente est très, très ouverte à la question de l'exploitation animale de manière générale. Mmh. Et elle a même dit qu'elle était plutôt favorable et qu'elle pensait pour elle-même aux végétaristes. Parce qu'il y a une remise en question quand même qui commence à se faire. Mais c'est vrai qu'en France, on est plutôt... à la traîne pour ça, mais je pense qu'on est aussi à la traîne pour pas mal d'autres luttes. Donc, oui, ça, pour moi, c'est lié.
Et au sein d'ACTA, justement, vos actions depuis 2005 et celles qui sont à venir, ça donne quoi ?
Alors, on essaie de faire à peu près une action par mois. Parfois, c'est plus. En février, on n'en a fait aucune. On a pris des petites vacances. Donc c'est des stands. Alors en général, on fait ça à Bordeaux, parce que c'est là qu'on est le plus nombreux, dans le centre-ville, donc des stands les week-ends. Donc on participe, par exemple, on a fait des actions contre le gavage. Donc on est une région, il y a pas mal de foie gras. Il y a la journée sans viande qui a lieu tous les printemps. L'été, il y a Bronzé sans cruauté qui informe sur les cosmétiques non testés sur les animaux. Il y a le Vegan Day à l'automne. Qu'est-ce que j'oublie, la journée des droits des animaux en décembre. Donc voilà, il y a un petit calendrier militant qui existe déjà au niveau national et international sur lequel on se cale en fait en général. Mm-hmm. Et puis prochainement, le samedi 22 mars, donc à Bordeaux, il y a la journée sans viande. Donc on aura un stand l'après-midi, place Saint-Projet.
À quelle heure ?
C'est de 14h à 18h environ à chaque fois.
D'accord.
Le samedi 19 avril, c'est la semaine mondiale des animaux de laboratoire. Donc pareil, on aura un stand Place Saint-Projet l'après-midi. Et le 17 mai, on participera à la Veggie Pride à Paris. Donc c'est le rassemblement des végétariens et végétaliens pour les animaux. Donc pourquoi cette précision ? Parce que c'est pas un rassemblement pour faire la promotion du végétarisme uniquement sous l'angle de la santé, par exemple. Oui. C'est le végétarisme sous l'angle des droits des animaux.
Jeff, tu voulais dire ?
Moi, j'avais une interrogation sur les animaux. Enfin, en laboratoire, les tests en laboratoire, c'est par rapport aux animaux. Si on ne les teste pas sur les animaux, dans quelle mesure on peut tester certains produits, quoi ?
Ouais, en fait, c'est, déjà, c'est un...
Quelle alternative ? Pardon, excuse-moi de te couper.
Ouais, non. En fait, déjà, il faut savoir que c'est vrai que souvent on nous dit, mais si on teste plus sur les animaux, dans ce cas-là, on va tester sur les humains. Mais il faut savoir que ça existe déjà. Pour mettre un médicament sur le marché ou n'importe quel produit, il faut d'abord qu'il soit testé sur les animaux et au bout d'un certain temps, on passe au cobaye humain. Et là, c'est souvent la loterie, hein, parce que biologiquement, on a des différences d'une espèce à l'autre. Déjà que d'un individu à l'autre, ça varie. Donc déjà, il y a ce problème-là qui fait qu'on ne sait pas ce que ça donnera sur les cobayes humains et qui sont ces cobayes humains en plus. Or, souvent, quand on est étudiant, on voit des petites annonces pour aller tester des crèmes ou des médicaments, ça varie, pour des labos. Donc, on est payé. Donc, ça va intéresser qui ? Les gens qui ont besoin de fric. Et puis, on sait très bien aussi, il y a eu différents scandales, qu'il y a tellement de délais d'attente, parfois, pour tester des médicaments, qu'il y a des médecins, des laboratoires pharmaceutiques plutôt, qui sont tellement soucieux d'apporter le bien-être à l'humanité, qui vont aller tester dans les pays du tiers-monde, donc que ce soit en Inde ou en Afrique, parce que là-bas, c'est beaucoup plus facile de tester sur les cobayes humains. Donc voilà, déjà, bien montrer qu'il y a un lien, en fait, entre les cobayes humains et non-humains. Ils sont exploités pareil.
Et les personnes malades aussi, qui sont à l'hôpital et qui testent aussi.
Oui, tout à fait.
En étant...
Et puis, chacun aussi, à l'insu de son plein gré, moi, ça m'est déjà arrivé... qu'on me fasse tester un médicament sans me dire que c'était une phase de test. Je l'ai appris plus tard.
Ah, voilà.
Et mon père, pareil aussi, on lui a mis un drain dans le cœur parce qu'il a eu un pontage, en disant que c'était super, top et tout. Bah, il a failli mourir, en fait. Mais on lui a pas dit que c'était à titre expérimental.
Voilà. Ça, c'est super. Et donc, l'alternative à ça, de ne pas tester sur les animaux ou sur les humains, justement.
Voilà. Déjà, de revoir globalement aussi... Qu'est-ce qu'on veut au niveau médical ? Déjà, il y a la prévention. Ça, c'est un volet quand même qui est immense, sachant que, par exemple, beaucoup des cancers sont dus à une hygiène de vie qui n'est pas forcément adaptée. Je ne dis pas une mauvaise hygiène de vie, parce que, on ne va pas dire que c'est les gens qui ont fauté et puis ils méritent de mourir. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Mais déjà, il y a un volet important dans la prévention. En fait, en étudiant aussi l'épidémiologie, c'est étudier les populations malades. Par exemple, moi j'ai du cholestérol de manière héréditaire, plutôt que de tester des médicaments anti-cholestérol sur des animaux en leur créant déjà un terrain favorable à cette maladie, il suffit d'étudier les gens comme moi qui sont malades, et par exemple de voir si on a tel régime, le taux de cholestérol baisse. Donc voilà, ça c'est valable pour pas mal de maladies. D'ailleurs, ça me fait penser aussi, on teste pas seulement les médicaments. On teste aussi donc l'armement, les produits d'entretien et aussi en psychologie. Il y a beaucoup de tests qui sont faits pour en fait étudier par exemple l'effet de l'abandon. Donc plutôt que d'étudier des personnes qui ont été abandonnées, de leur faire des entretiens, etc., on enferme des animaux sans aucun contact avec un autre animal et puis on voit ce que ça donne. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc quel est l'intérêt de ce genre d'expérience ? Ça aussi, c'est une question à se poser. Si au moins, par exemple, imaginons que l'expérimentation animale, on puisse pas s'en passer. Si c'était vrai, au moins tous les laboratoires pourraient arrêter de se faire concurrence, se rassembler et dire, voilà, on veut tester tel médicament. Déjà, est-ce que ce médicament serait utile ou pas ? Est-ce qu'il apporte quelque chose ? Parce qu'il y a plein de médocs qui sortent. Mais en fait, c'est des copies d'autres médicaments qui existent déjà. Donc si au moins ils se rassemblaient pour arrêter de se faire concurrence, ça ferait des millions de victimes en moins.
Ah oui, mais le lobby pharmaceutique est super fort, plus que le lobby automobile.
Ouais, exactement. Donc on voit bien que c'est même pas une question d'utilité, c'est une question d'intérêt financier. Puis qu'il y a aussi d'autres formes de médecine qui existent. Donc déjà, la prévention... Mais quand on a un rhume, on sait très bien que ça sert à rien de prendre des médicaments.
Oui.
Ça part au bout de 7 jours. Et puis, entre-temps, on peut soigner avec les plantes. Évidemment, je parle des petites, des maladies bénignes. Après, par exemple, si j'avais besoin, parce que j'avais une maladie grave, évidemment, je prendrais des médicaments et je me soignerais. Parce qu'en l'état actuel, j'ai pas le choix avec d'autres médecines. Mais ça n'empêche que je suis pour... faire la promotion des alternatives. Il y a aussi tout ce qui est culture de cellules en laboratoire,
les cellules souches, tout ça.
Ordinateur. Enfin, il y a beaucoup d'autres
choses qui seraient à faire, justement. Et Justement, est-ce que si demain on devient tous végétariens, tu as dit vegan, attends, je reviens là-dessus, parce qu'on en avait parlé la dernière fois, mais c'est quoi être vegan?
Alors être vegan, c'est végétalien en fait en anglais,
oui.
Et en français, en général, ça veut dire quelqu'un qui est végétalien, moi je dis ou végétarien, mais bon, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Et qui boycotte aussi les autres produits de l'exploitation animale, donc par exemple dans l'habillement, donc le cuir, la fourrure, les cosmétiques testés sur les animaux, qui va pas dans les cirques avec animaux ni dans les zoos. Donc c'est vegan en fait, c'est être contre l'exploitation animale et le vivre en fait dans son quotidien quoi. Mmh. Donc après être un vegan parfait, c'est un vegan mort, quoi. Personne ne peut y arriver concrètement dans la vie de tous les jours, de la même manière qu'on ne peut pas avoir une vie 100% commerce équitable, quoi. C'est,
oui.
C'est pas possible dans l'état actuel. Ce qui n'empêche de se battre quand même pour arriver à ce résultat-là.
Et est-ce que justement cette lutte contre l'exploitation des animaux, ça ne détourne pas des autres luttes ?
Oui, bah déjà parce que l'exploitation animale, elle est liée aux autres. Par exemple, si on regarde l'origine de l'esclavage, bah elle remonte à l'élevage. Toutes les techniques dans l'élevage de séparation des mâles et des femelles, de séparation aussi des mères et des petits, d'enfermement, de transport, de castration, de marquage aussi, toutes ces techniques donc, ont d'abord été appliquées dans l'élevage et après ont été appliquées telles quelles dans l'esclavage. Et pareil, par exemple, les déportés ont été amenés dans les camps de concentration dans des wagons à bestiaux. S'il n'y avait pas eu ces wagons à bestiaux, est-ce que la déportation aurait été possible ? Donc voilà, déjà on voit que les dominations sont liées. Et en plus, dans l'industrie de la viande, donc déjà, je pense que les ouvriers qui travaillent dans des usines à viande, j'ai de la famille qui fait ce genre de métier, par exemple dans les usines à poulet, c'est des métiers très durs. Mal payés et psychologiquement qui sont pas faciles non plus quoi. Donc déjà il y a une exploitation des humains dans ces industries et en plus l'industrie de la viande elle provoque la déforestation par exemple en Amérique latine parce qu'on traite les végétariens de bouffeurs de soja alors que c'est pas nous qui mangeons la majorité du soja en fait, c'est les mangeurs de viande parce que la majorité du soja OGM en plus est destinée à l'élevage. Et en Amérique latine, en fait, il y a beaucoup de cultures donc destinées à l'élevage européen et chinois, ce qui provoque déforestation, pollution, des petits paysans chassés de leurs terres donc par les plus gros producteurs. Donc déjà, on voit bien que dans l'industrie de la viande, donc qui est l'exploitation animale poussée à son extrême, exploitation animale et exploitation humaine sont liées. Donc oui, logiquement, quand on remet cette exploitation animale en question, on s'intéresse à l'exploitation humaine de manière générale, enfin même à toutes les exploitations en fait. Et moi ça me semble logique que quand on est contre le spécisme, on est aussi antiraciste, antisexiste, etc. Mais en même temps c'est pas obligé, parce que par exemple on va pas demander à une féministe de prouver qu'elle est bien antiraciste, ou même pourquoi pas aussi qu'elle est bien antispéciste. Donc,
qu'elle n'est pas homophobe, qu'elle n'est pas...
voilà.
Il y a beaucoup de choses.
Donc normalement, l'un doit amener à l'autre, mais c'est pas
ça découle, mais c'est
obligatoire.
Pas, c'est pas obligé non plus. Oui, Jeff, tu voulais dire.
Non, moi c'était pour... en parlant des zoos, ça me posait la question de savoir si... donc vous êtes pour la libération des animaux des zoos, c'est ça?
Contre si leur enfermement. Dire. Après, enfin, leur libération comme ça, hop, vas-y, le lion... va-t'en, non, peut-être pas non plus.
Au pied de la Tour Eiffel.
Non, mais je sais pas, je veux dire, mais ceux qui sont déjà dans les zoos, il va falloir quand même les remettre en milieu naturel. Enfin, c'est tenté qu'il reste encore du milieu naturel.
Voilà, en tout cas, c'est sûr qu'il faut qu'ils sortent des zoos. Parce que le problème des zoos aussi, c'est par exemple le zoo de la Palmyre, qui n'est pas très très loin de là où on habite. C'est un zoo qui est bien, ils ont de l'espace, etc. A priori, on va dire, sont bien traités, si ce n'est qu'ils sont enfermés, hein, comme on peut être bien traité en prison. Mais le problème aussi, c'est que ils sont bien traités tant qu'il y a de l'argent. Et il y a des zoos qui se soucient plus des animaux, c'était le cas du zoo de Vincennes, qui n'a plus d'argent, et donc les animaux restent dans des situations mais complètement abominables, ils crèvent à petit feu, et c'est cette question-là aussi. Donc si par exemple demain on dit allez hop, ça y est, tout le monde est anticipé, on va fermer les eaux de la Palmyre, que va-t-on faire de ces animaux? Ben là, je laisserai le soin aux vétos et naturalistes de savoir pour chaque cas que faire des animaux, parce qu'il y en a, je pense qu'ils sont plus possibles au bout de, je sais pas, s'il y a un animal à 20 ans par exemple qui a vécu toute sa vie en captivité, on va pas le remettre dans la jungle, quoi. Ça,
oui, parce qu'après ils sont inadaptés en fait. Pour se nourrir, etc. Et pour, donc c'est pareil pour les cirques, tout ce qui est aussi pour les animaux de cirque aussi ou...
Tout à fait, sachant qu'en plus dans le cirque, il y a le dressage. Et le dressage, ben, c'est comme l'école, je dis ça, mais que c'est un cirque. C'est souvent source de violence, ils sont battus, on leur fait répéter des trucs complètement idiots pour plaire à un public qui va applaudir à... Pourquoi ? Pour voir des éléphants avec un petit chapeau sur la tête faire le beau, quoi. C'est en plus totalement absurde. Mais non seulement c'est absurde, mais en plus, donc ils sont enfermés le reste du temps. Et pour les dresser, ils sont souvent maltraités. Hein.
Oui, d'accord. Bon, on va faire une petite pause musicale. Et puis on se retrouve tout de suite après.
Брак продолжается, бойня начинается. Опять убогих трупоедов наступает хана. Продолжаем эпопею, месть животных, часть 2. Мы теперь не одни, с нами сам сатана. Самый адский веган, месть животных, часть 2. Для особо невменяемых, для кого не дошло, мы еще раз прокрутим то же самое кино. Те же самые кадры, убивать нельзя. Убивай другого, убивай себя. Убиваешь другого, убиваешь себя. Магазины, белоки завалены трупами. Неужели люди могут быть такими глупыми? Нужно очень сильно свою жизнь не любить, чтобы миллионами чужие жизни губить. Какой жестокой тварью надо человеку быть, чтобы каждый день чужими смертями жить. Ежедневно с утра ты поглощаешь все то, что было дано кому-то не для того, что твоя бездонная ненасытная пасть постоянно пожирала чужую жизнь. Мразь, трупоед, пожиратель меня, что были жестоко замучены уродом вроде тебя. Если хочешь от мяса, отрубим от тебя кусок, ногу, руку или печень и бросим в котелок. Обильно зальем пиво вместо овощей табак, заправим героином и будет ништяк. Зачем разделять, что жрешь сразу все то, что твоему гнилому сердцу так сильно и мило. По многочисленным просьбам, заявка, предложение, ад продолжается, бой начинается. Опять убогим трупоедом наступает хана. Продолжаем эпопею, меч животных, часть 2. Убивает человек, значит это охота. Стрелять большого расстояния в беззащитное животное. По мне так это просто, тупое убийство. Развлечение для ублюдков, и здесь нечем гордиться. В парке развлечений, вместо пони и коней, наездник запряженный в сани возит лошадей. Получая постоянно погонял он по сраке, наворачивает круги кнутом по клоаке электрически. Прутом животные надрессировали трупоеда. Выступает он в цирке вместо тигра и медведа. Смертельный номер раз, смертельный номер два. Полезай в духовку, теперь ты жратва. На блягах с едой у животного нет основа рациона, человек, трупоед. Трупоеды все в страхе, бегут кто куда. На птицефабрике снова приключилась беда. Куры выклевали всем человекам глаза. Таковы последствия трупоедского зла. Рискуя стать обедом в любой момент, трупоеды в панике спасения нет. Все жрут человека, вот это инцидент. По многочисленным просьбам, заявка, предложение, ад продолжается, бой начинается. Опять убогим трупоедом наступает хана. Продолжаем эпопею, меч животных, часть 2. Для всех животных, что подвергли затравке, подходим по очереди, не создавая давки. Жрать можно бесплатно все, что есть на прилавке. Холодец из трупоеда, кто хочет добавки? Краснодикий уже вымирающий вид. Человеками теперь зоопарк кишит. Если хочешь детей своих повеселить, приводи их сюда, только людей не кормить. И вот уже прошла пара сотен лет, человекообразных трупоедов на земле давно нет. Гармония и рай, и голубое небо, чистый воздух и вода. Нет трупоеда, нет проблемы. Нет трупоеда, нет проблемы. Нет трупоеда, нет проблемы.
Porc et Reclus à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 MHz sur Radio Plaisance. Donc, on vient d'écouter Ed Jihad avec Animals Revenge. Voilà, donc nous avons Kostia. Bonjour Kostia.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher aux antispécistes ?
Alors, il y a plusieurs types de reproches qu'on peut faire aux personnes qui s'intéressent à la cause animale. On a assez régulièrement, notamment dans la rue, quand on essaye d'interpeller les gens sur le thème de la domination des animaux par les humains, des gens qui nous reprochent de pas assez nous intéresser aux humains et de préférer les animaux. Donc il y a déjà tout de suite une mise en rapport entre les préférences qu'on pourrait avoir pour les uns ou pour les autres. Donc bien souvent des gens qui nous reprochent de pas assez nous investir dans d'autres causes qui seraient à leurs yeux plus importantes. Donc il y a une sorte de hiérarchisation comme des causes, s'occuper des petits enfants en Afrique ou s'occuper des maladies graves qui touchent les humains. Ce à quoi nous on essaie de répondre que l'un n'empêche pas l'autre. Donc déjà les gens qui généralement nous répondent ne savent pas forcément si nous, en dehors de la cause animale, on n'agit pas pour d'autres causes, en donnant de notre temps ou de notre argent ou autre, pour lutter contre la famine ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Donc déjà, les gens ne savent pas forcément à qui ils ont affaire et tout de suite, d'emblée, ils nous reprochent ce qu'on ne fait pas, soi-disant, plutôt que de s'intéresser à ce que nous, on essaye de faire en leur parlant des animaux. Bien souvent, ce sont des gens qui eux-mêmes n'ont pas vraiment d'engagement pour les animaux, ni pour les humains, ni quoi que ce soit. Donc c'est un peu un moyen de se cacher et de refuser de s'intéresser à un sujet qui les dérange.
Et se détailler, c'est un reproche
auquel on a droit de temps en temps, quand même. Également, pas mal de gens qui ont l'air de s'inquiéter pour nous, ou en tout cas de se méfier du régime alimentaire végétarien ou végétalien. Qui se moquent un peu en disant que des gens qui refusent de manger certains aliments risquent d'avoir des carences, d'être malades ou de mourir dans d'atroces souffrances. Donc bon, là c'est pareil, on peut leur expliquer assez rapidement que l'équilibre alimentaire peut être assez facilement trouvé en utilisant tout ce que les végétaux nous produisent, que ce soit en matière de céréales, de légumes, de légumineuses. Qu'on est plutôt même dans un régime surprotéiné dans les sociétés occidentales, donc les carences sont assez rares. Voilà. Après, les antispécistes peuvent être aussi taxés de dangereux libérateurs d'animaux, puisque on a parfois des gens qui peuvent reprocher qu'il y a un risque d'être envahi totalement par les animaux qu'on libérerait comme ça. Qu'on mangerait plus et puis que du jour au lendemain, avec une baguette magique, on libérerait dans les rues. Donc là, on a l'impression que ces gens ont un sentiment de peur panique. Ils ont peur d'être envahis par des hordes sauvages de poulets, de moutons et je ne sais quoi qui envahiraient la terre. Alors qu'évidemment, le propos de l'antispécisme n'est pas de déverser du jour au lendemain une quantité phénoménale d'animaux qui sont enfermés dans les rues, mais de stopper leur consommation et donc par là même de stopper leur production, puisque les animaux qui sont élevés pour être consommés ou pour être utilisés pour faire des vêtements sont en premier lieu produits par les chaînes de production et les chaînes de consommation. Donc il faudrait d'abord à la base stopper leur production en grande quantité pour éviter effectivement de se retrouver du jour au lendemain avec des quantités ingérables d'animaux qui se retrouverait dans la nature.
Mais voilà. C'est ce qu'on peut avoir aussi comme reproche quand on est contre la chasse, en disant qu'on va être envahi par des sangliers ou des cerfs ou des biches et tout ça, quoi.
Ouais. Alors ça, c'est aussi l'argument qu'utilisent pas mal les chasseurs, ou certaines personnes qui se sentent proches de la nature et qui défendent les chasseurs en les considérant comme étant des grands régulateurs du règne sauvage. Et qui nous considèrent comme dangereux puisqu'ils ont peur d'être envahis par, oui, effectivement, des biches, des cerfs, des animaux. Mais bon, oui, effectivement, c'est l'argument qu'utilisent les grands théoriciens du racisme en disant que si on freine pas l'immigration aux frontières, on va être envahi par des gens qui viennent pas de chez nous, etc. C'est toujours la même idéologie, quoi. Il vaut mieux enfermer et mettre en cage et produire de manière contrôlée par la main de l'homme, plutôt que de laisser vivre librement tout ce qui est un peu trop différent de nous, quoi. C'est un peu le réflexe qu'ont les gens, et c'est pour ça que ils ont peur de l'antispécisme de ce point de vue-là.
Et c'est pour ça que ça se rapproche aussi de la lutte anticarcérale, en disant si on enlève, si on enferme les animaux, on n'enferme pas les hommes non plus, et que c'est pareil, hein, si on abolit la prison, on ne va pas laisser les gens partir comme ça.
Ouais.
C'est un peu pareil.
Oui, c'est un peu pareil. Le fait de poser le débat et de lancer une réflexion sur la légitimité de les enfermer, c'est effectivement comme le débat sur les conditions de vie carcérales des humains. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on veut libérer comme ça des quantités d'individus. Mais effectivement, avoir une réflexion sur le bien fondé, sur la qualité de vie des individus, quoi.
C'est pareil, vous devez avoir la question. Oui, Jeff ?
Non, vas-y.
Peut-on libérer les animaux avant l'homme ?
Alors, peut-on libérer les animaux avant l'homme ? Ça, c'est une question qui n'est pas forcément évidente à répondre. je vais peut-être laisser Virginie répondre à cette question.
Comme il se défaut, c'est...
c'est pas que je n'ai pas d'avis sur la question, mais c'est pas... libérer les animaux avant les humains. Bon, on revient au problème des priorités de lutte. Voilà. Est-ce qu'il y a une priorité ? Je pense que...
Est-ce que ça peut pas être coexistant comme lutte ?
Mais oui, voilà, on en revient à la coexistence des luttes, que ce soit la lutte contre le sexisme, contre le racisme, contre le spécisme. Toutes les luttes sont, à mon avis, coexistantes, c'est-à-dire que les combats contre les dominations sont en fait un même combat contre toutes les formes de domination et d'exploitation. Si les êtres humains ont besoin de se libérer, je pense que l'empathie qu'ils peuvent avoir envers les animaux qui sont... bien moins libre qu'eux, en tout cas les animaux domestiques, entre guillemets, si on a cette forme d'empathie, on peut, en comprenant mieux la souffrance des animaux, on ne peut qu'améliorer notre propre compréhension des problèmes qu'ont les humains pour se libérer. Enfin, je pense que l'un va avec l'autre.
Oui, et que justement, si on vous reproche de ne pas penser aux humains, alors que si, par manière indirecte, si on veut par là, c'est que si vous voulez la libération des animaux, c'est aussi parce que vous voulez la libération de l'homme.
Oui, d'ailleurs j'utiliserai une formule qui est un peu facile, mais qu'on aime bien utiliser aussi pour les gens qui se disent, justement, qui veulent mettre en avant les humains et nous reprochent de nous intéresser aux animaux, c'est que les cages qu'on souhaite ouvrir, elles sont avant tout dans la tête des humains, quoi. C'est les animaux qui sont en cage, c'est des cages qui sont... Les gens qui refusent de s'intéresser à la réalité des animaux enfermés, c'est parce que dans leur tête, ces animaux sont dans des cages et ils n'arrivent pas à en sortir. Donc c'est la libération aussi des esprits humains. C'est par cette libération des esprits humains et par cette acceptation de reconnaître des droits, on va dire, aux animaux par les humains, qu'on pourra ouvrir les cages pour les animaux, entre guillemets, quoi.
Justement, à propos, c'est quoi exactement comme droit que vous réclamez ?
Ouais, alors
c'est pas
aussi,
exactement les mêmes que pour nous, c'est ce que je voulais dire.
On pourrait faire un parallèle justement avec la question tout à l'heure de savoir quels sont les reproches qu'on nous fait. Effectivement, le terme de droit que j'ai pu utiliser pour les animaux, c'est un terme qui peut être polémique. Hein. Le mot droit des animaux peut être sujet à caution, peut parfois faire peur, parce que dès qu'on arrive dans le droit, on s'imagine tout de suite que les gens qui réclament des droits pour les animaux... ce qui n'est pas forcément d'ailleurs le terme que moi je préfère utiliser, on a peur tout de suite que ce soit réclamé que les animaux aient strictement les mêmes droits que les humains et que donc on ait le droit de vote pour les animaux, le droit de se marier, le droit de se paxer, le droit d'avoir accès à la contraception, etc. J'en passais des meilleurs.
Attendez, il y a des curés qui marient les animaux et qui les bénissent.
Ouais, ça peut.
Oui,
ça,
non, ça mais peut... ça existe, je vous jure. Donc ça fait un peu flipper, quoi.
Ouais, ça peut faire rire aussi. Oui, c'est pour pourquoi. Ouais, ça peut, c'est un peu étrange quand même. C'est une drôle de considération sur les animaux.
Ouais.
Mais c'est vrai que moi, mon point de vue, les droits des animaux, c'est plutôt reconnaître leur droit à vivre pour leurs propres intérêts. Mmh. Et chaque espèce ayant ses spécificités, logiquement, chaque espèce animale a ses centres d'intérêt, ses besoins vitaux. Et donc, pour moi, les droits des animaux, c'est pas donner les mêmes droits à tous les animaux, mais laisser chaque espèce animale avoir le plus possible le choix de vivre pour ses besoins propres, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc avoir son espace vital, avoir sa vie en famille si c'est nécessaire, sa vie en troupeau si c'est nécessaire, pouvoir vivre dans un espace vital qui lui correspond, quoi.
Voilà. Et justement, si demain on est dans une société antispéciste, végétarienne, végane, est-ce que justement ça pourra nourrir tout le monde ? Moi, je prends les questions comme ça. C'est de savoir si justement au niveau des céréales.
Alors ouais, là, on peut se poser la question de l'idéal, de l'idéal entre guillemets, de l'utopie, d'être dans un monde antispéciste où tous les êtres humains auraient pris en compte la cause animale et où on se retrouvait dans une société où les animaux sont plus dominés par les autres, par l'espèce humaine. Est-ce qu'on aurait assez pour tout le monde? C'est vrai que c'est pas une question auquel j'ai une réponse comme ça immédiate. Peut-être Virginie peut y répondre. Donc je vais repasser la parole à Virginie.
Bon, tu reparles après toi aussi, j'espère.
Oui, je reparlerai après sûrement.
Peut-on nourrir tout le monde, c'est ça?
Oui.
Déjà, en fait, pour faire... Alors, si je me souviens bien, c'est un rapport de 1 à 10 entre la protéine végétale et la protéine animale. C'est-à-dire qu'il faut 10 protéines végétales pour faire seulement... Enfin, 10 grammes de protéines végétales pour faire 1 gramme de protéines animales. Donc, c'est-à-dire la nourriture qu'on donne aux animaux. Et si tout le monde était végétalien, donc on ne produisait plus ni viande, ni œufs, ni lait, donc il n'y aurait plus besoin de nourrir les animaux d'élevage. Donc toute la nourriture, toutes les céréales qu'on donne aux animaux d'élevage,
ça serait pour les gens.
La distribuer, puisque on imagine que s'il n'y avait plus d'élevage, on serait avec des gens qui seraient empathiques avec tout le monde, quoi. On redistribuerait la nourriture à ceux qui n'ont pas à manger. Voilà. Je pense, ça me fait penser au film, c'était quoi, le théorème de Darwin, le film sur le lac...
Le cauchemar de Darwin.
Le cauchemar de Darwin, voilà. Où on voit bien, en fait, justement, je trouve, tous ces liens. Donc on voit ces pêcheurs africains qui prennent des risques pour pêcher la perche du Nil, si je me souviens bien de son nom, de ce poisson. Oui. Poisson qui a été importé par on ne sait qui et qui a détruit tout l'écosystème. Il n'y a plus que ce seul poisson-là dans ce lac. Donc qui pêche ce poisson-là? Donc il y a aussi la désertification rurale. Ils viennent donc autour de ce lac pour pêcher. Donc ils vivent dans la pauvreté. Ces poissons sont exportés aux populations occidentales. Pendant ce temps-là, les poissons, évidemment, ils sont zigouillés. Les gens autour du lac n'ont rien à manger. Ils mangent les restes, les arêtes, en fait, de ces poissons qui sont mis à sécher et qui produisent de l'ammoniac, en fait, parce que les cadavres en putréfaction produisent de l'ammoniac. Cet ammoniac-là tue et blesse les gens, en fait, qui travaillent dans ces endroits. Donc, vous voyez notamment une femme là, qui avait l'œil complètement fondu. Ces populations qui sont complètement déracinées, donc les hommes pêchent, les femmes se prostituent, les enfants sont abandonnés. Et pendant ce temps-là, les poissons sont zigouillés. Donc on voit bien aussi le lien de tout ça, en fait. On ne peut pas séparer une cause d'une autre. Et que quand on libérera les animaux, on libérera les humains. Quand on libérera les humains, on libérera les animaux. Et qu'en plus, il y aura assez à manger pour tout le monde. Donc,
et puis justement, sur l'écosystème, par rapport à la pollution de l'eau, par rapport à plein de choses comme ça, toi, par rapport à tout ce qui est vivant, tout ce qui est environnemental, tout ce qui est... Tout ça y est, donc si on fait une petite partie, c'est pas possible.
C'est vrai qu'on parle peu de l'importance du végétarisme et du végétarisme sur l'impact de l'environnement, que c'est très joli de dire je vais éviter de prendre ma voiture ou je vais trier mes déchets, et à côté de manger de la viande, des produits laitiers, des œufs tous les jours et même plusieurs fois par jour. Parce que c'est bien plus polluant, l'élevage est bien plus polluant que la circulation automobile, par exemple. Et en gaspillage en eau aussi, c'est phénoménal. Mmh. Et rien que pour des raisons, même si, par exemple, on ne veut pas se préoccuper de l'élevage parce qu'on s'en fout des droits des animaux, on va bien être obligé de toute manière, parce que pour le simple motif égoïste de notre survie en tant qu'espèce, on ne peut plus manger de la viande, des œufs et des produits laitiers tous les jours, sans courir à notre perte au niveau des ressources.
Mais on peut manger de l'antispéciste. tu vois pourquoi je te dis ça. Nous ne mangeons pas d'antispéciste car nous ne voulons pas faire de mal aux animaux.
Ouais, la polémique de la FA où il ne faut pas parler d'antispécisme, on n'a pas le droit, c'est pas bien, c'est pas une lutte valable.
C'est pas bien. Pourquoi?
Ben, je sais pas trop, parce qu'en fait, moi, j'étais pas née, entre guillemets, à cette époque-là, donc ça date de...
C'est les années 80, non?
Ouais, je crois, de bien longtemps quand même. Donc j'ai pas suivi. Par contre, on en a toujours un peu les contre-coups. C'est-à-dire que quand on fréquente des militants d'autres causes, ça arrive qu'on dise « Ah ben, j'espère que t'es pas antispéciste, hein. » Ils savent même pas trop pourquoi, mais ils savent que c'est pas bien, en fait. Donc, je ne saurais pas trop expliquer le pourquoi du comment, mais il y a des reproches comme quoi, donc déjà, les animaux, c'est radicalement différent des humains, donc c'est pas le même problème, parce qu'ils peuvent pas se libérer eux-mêmes, contrairement, par exemple, aux femmes. Donc, dans ce cas-là, moi, je dis qu'est-ce qu'on fait des handicapés mentaux et des petits-enfants.
Oui. On les tue.
Donc,
à l'abattoir.
Ce genre d'argument, moi, je comprends pas trop. Donc, en plus, moi, je suis un peu réfractaire à tout dogme, donc...
Ben oui, mais théoriquement, ça serait pas dogmatique, mais bon, enfin bref, c'est un autre sujet. Mais bon, je vais pas en mettre une couche, mais oui, tout à fait.
Mais par rapport à ça, justement, est-ce que c'est pas une incompréhension aussi par rapport au... ou une mauvaise compréhension par rapport au livre de, justement, de Singer, là, ou Singer, je sais pas comment tu prononces, parce que moi, j'ai du mal avec les noms. Je veux pas la... Mais sur la libération animale, justement, où c'est assez... Ça peut être équivoque justement par rapport à ce qu'ils considèrent les individus et voilà.
Ben je ne sais pas trop d'où ça vient. Je pense oui qu'il y a d'une part une incompréhension, mais l'incompréhension elle vient surtout, enfin j'ai l'impression au fil des discussions, d'un blocage de toute manière a priori dès qu'on parle des droits des animaux. Par exemple, je me souviens que dans les cahiers antispécistes, ils avaient fait un dossier sur la zoophilie. C'était très intéressant. Mais en fait, le simple fait de parler de zoophilie, c'est arrivé que automatiquement on se fasse accuser d'être zoophile. Parce que tout simplement, ce qui était le propos dans plusieurs articles, avec des points de vue différents, c'était la zoophilie choque beaucoup, et pourtant, les animaux, ils souffrent pas spécialement d'être... je trouve même pas les mots. Qu'on ait des rapports sexuels avec eux. Et, par exemple, l'élevage, c'est des souffrances bien plus énormes, et ça choque pas les gens. Donc, poser la question, pourquoi la zoophilie choque tant? Parce que ça met une proximité, en fait, entre l'humain et un autre animal. Mmh. Donc, ça casse des frontières. Donc, il y avait toute une réflexion là-dessus qui était intéressante.
Mal, oui.
Et bien, résultat, c'est parti, boum, les zoophiles sont zoophiles. Et pareil, si on s'interroge, si on dit, vous pensez qu'on peut tuer les animaux parce que vous jugez qu'ils sont bêtes. Donc, le mot bête, lourd de sens. Donc dans ce cas-là, on peut dire, mais les handicapés mentaux, alors vous en faites quoi? Et bien souvent, quand on pose cette question-là, plutôt que l'autre se remette en question dans son rapport aux animaux, il dit, ah donc vous voulez qu'on tue les handicapés? Alors que non, c'est pas ça.
Ça y est, c'est l'eugénisme et tout, c'est...
Oui, puisqu'on dit qu'il ne faut pas tuer les animaux, on ne va pas dire qu'il faut tuer les handicapés. Quoi. C'est, ouais. Je pense que
mais il y a le truc religieux aussi, excuse-moi, je te trouve, ouais. Le truc religieux que Dieu a fait l'homme à son image et que donc l'homme serait, même dans un truc justement libertaire, anarchiste, où justement tu essaies de te débarrasser des schémas, des trucs machin, tu as encore ces trucs-là quand même. Parce que je veux dire, justement, de mettre une hiérarchie comme ça et de dire... que l'humain est plus fort que les animaux, c'est un peu mystique aussi, toi.
Oui, tout à fait. Il y en a même parfois qui disent ça. On a mérité notre place tout en haut de la chaîne alimentaire, mm-hmm. Donc on a le droit d'exploiter et de tuer les animaux. Et c'est vrai qu'avant, c'était Dieu nous a dit qu'on pouvait tuer les animaux, et maintenant, en fait, c'est la raison. Il y a une citation comme ça qui dit « La religion a privé les animaux d'âme et la raison les prive d'intelligence ». Et c'est ça en fait, maintenant tout, on essaie de réfuter les arguments religieux qui sont plus perçus comme valables, mais on en trouve d'autres pour justifier les dominations. C'est l'ordre naturel. C'est-à-dire maintenant, si on arrête d'exploiter les animaux, comme disait Kostia, ils vont nous envahir parce qu'on va bouleverser l'ordre naturel.
Et puis on va être malade et puis ouais. Ça ne va plus aller tout ça.
Exactement, on est menacé d'une sanction divine en fait, quand on nous parle toujours des carences. Comme par exemple la carence en protéines, j'ai jamais rencontré personne qui a carence en protéines, quoi. Ça n'existe pas.
Enfer, moi, on m'a dit pour mon fils qui est presque végétarien, on m'a dit enfer.
Enfer, c'est possible, mais si on a déjà à la base des carences en fer, quoi.
D'accord.
C'est physiologiquement, on est différents les uns des autres. Je connais une végétalienne qui est carencée en fer, et je connais une viandiste. Je trouve pas d'autres mots, qui est carencée en fer aussi. Après, si on mange mal et qu'on a vraiment un mauvais apport dans tel ou tel nutriment, bon, on aura des carences dans tel ou tel truc. Mais ce qui caractérise nos civilisations, c'est plutôt l'excès. excès de protéines, excès de graisse, etc. C'est pour ça que la plupart des médecins, bon, pas toujours les médecins français encore, sont pas trop informés, mais beaucoup de médecins reconnaissent quand même que la nourriture végétarienne et végétalienne est meilleure pour la santé. Et en plus, on pourrait même imaginer, si on était dans une société qui soit plus spéciste, on pourrait manger de la viande. Par exemple, je sais qu'il y a une tribu en Amérique latine, leur rite funéraire, en fait, ils mangent les cadavres humains. Donc, c'est une manière de s'approprier aussi le corps de l'autre qui fait partie de soi pendant un moment. Bon, ben voilà, si on voulait vraiment à tout prix manger de la viande, franchement, on trouverait des moyens, quoi.
Oui, donc, c'est clair.
C'est même pas ça le fond du problème, qu'on voit bien que c'est avoir toujours quelqu'un sous sa botte.
Voilà, c'est ça.
Et puis il y a quelqu'un qui est plus malheureux que soi. Là, ce qui me fait penser à un truc, il y a une phrase qui j'aimerais bien un jour qui n'existe plus, qui n'ait plus de sens. C'est traiter comme un animal.
Comme une bête.
J'ai été traité comme un chien. Les victimes des expériences nazies dans le camp de Ravensbrück, on les appelait les lapins blancs. Donc si un jour ces mots-là ne signifiaient plus rien, ça voudrait dire qu'on a libéré les animaux, mais libéré les humains aussi.
Oui,
dans leur tête.
Oui, ça c'est sûr. Moi, c'est pareil, on voyait Sébastien, et pas là malheureusement, mais pour demander pour l'habitat, justement, qu'il faudrait revoir aussi par rapport justement à la coexistence de toutes les espèces. Justement, il y a toute une remise en question aussi par rapport aux habitations, par rapport à tout ça, quoi.
De partager l'espace, ouais.
Voilà.
D'arriver déjà en libérant les champs destinés à la culture pour les élevages. Donc déjà, ça ferait de la place en plus, et de pouvoir coexister les espèces les unes à côté des autres, les fourmis dans leurs fourmilières, les chats là où vivent les chats. Parfois, ils nous acceptent sur leur territoire, parfois non.
Et à revoir justement les modes de construction par rapport aux matériaux, par rapport à tout ça, quoi. Donc ça serait justement, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a des livres ou des films, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps?
Alors, au niveau des films, pas trop. D'ailleurs, je crois qu'un des films où à un moment on voit le mot spécisme, c'est L'Armée des Douze Singes. C'est un truc par rapport à un labo, je crois. Mais au niveau des films, non, c'est assez pauvre. Alors, au niveau de la lecture, les cahiers antispécistes dont tu as parlé au début. Donc
voilà,
cahiers
au pluriel -antispécistes au pluriel.org.
Voilà, et tous les numéros sont téléchargeables sur le site, qui est vraiment très riche, hein, donc je conseille de le consulter. Il y a eu des parutions il n'y a pas longtemps en France sur les droits des animaux. Alors, Éternel Treblinka de Charles Patterson, qui est un livre, en fait, qui, justement, montre les liens entre exploitation animale et exploitation humaine. Et c'est le titre, en fait, est tiré d'un livre de Isaac Bazevich Singer, à pas confondre avec Peter Singer, le philosophe, qui disait que tous les humains sont des nazis pour les animaux et qu'ils vivent un éternel Treblinka.
Donc,
voilà, il y a Éthique animale de Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer au PUF, qui est sorti aussi ce mois-ci. Et il y a un livre qui est court et dense, qui moi m'avait pas mal éclairé quand j'ai commencé à m'intéresser à l'exploitation animale. C'est L'animal dans les pratiques de consommation de Florence Burga. Donc c'est un petit que sais-je, pas cher, ou qu'on peut trouver facilement en bibliothèque, et qui explique bien, en fait, donc dans notre consommation de tous les jours, d'où vient la viande, que les poussins sont broyés vivants parce que les poussins mâles, ça fait pas des bonnes poules pondeuses, donc fuitch, hop, broyés vivants. Donc, et elle explique bien aussi après comment on masque la viande, comment dans les publicités ou même dans les rayons des supermarchés, l'animal lui-même et donc toutes ses souffrances sont complètement gommées pour n'avoir plus en face de soi qu'un morceau de viande inidentifiable.
Voilà, et comme ça, on n'a pas la vérité sur les atrocités, parce que sinon, les gens, ils mangeraient beaucoup moins.
Tout à fait. Les têtes de veau, ça n'a plus trop de succès. La vulve de truie aussi, qu'on mangeait auparavant, on n'en mange plus, parce que paradoxalement, les gens sont devenus plus sensibles, de manière générale, à la souffrance. C'est pour ça aussi qu'on parle plus des viols, par exemple, ou de la pédophilie. Mmh. Et ils sont devenus aussi plus sensibles à la souffrance animale. Et pourtant, on arrive maintenant à un degré de cruauté qui n'existait pas il y a 100 ou 200 ans.
Donc je redis, parce que sur infokiosque.net aussi, il y a des brochures très intéressantes sur ça. Donc le site d'ACTA, où on voit justement toutes vos prochaines actions, tout ça. Tu peux me le redonner, Virginie, s'il te plaît ?
Alors, c'est acta-gironde.fr.
Très bien. Je vous remercie, Claudia, Virginie, pour cette émission. Je pense qu'on se reparlera.
Oui. On aura l'occasion d'en refaire sur la souffrance et sur d'autres choses.
Tout à fait. Exactement. Je remercie Sébastien, en plus, voilà, il est parti, le pauvre pasteur, voilà. Je remercie Jeff pour la technique et pour ses interventions très intéressantes. Je remercie Fabrice pour la technique aussi. Gros bisous Sébastien, même si t'as dû partir. Et je vous dis au mois prochain. Et on va avoir une petite musique. C'est un groupe qui s'appelle Active Slaughter, qui s'appelle My Food. Voilà. Au mois prochain.
Industry and all that animal abuse. It's got to stop. There's no one else but you. Let's stop it.